Bonsoir. La rencontre que nous avons ce soir a pour titre l'engagement des chrétiens, de quoi se mêle-t-on ? Le sous-titre est « De quoi se mêle-t-on ? » Ce qui justifie ce sous-titre, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer longuement, c'est que l'intervention des croyants dans la sphère publique, dans les débats d'opinion, dans les questions qui touchent au pouvoir, aux lois, etc., cette intervention est d'emblée suspectée, voire discréditée. Elle est suspectée d'attitudes dogmatiques, intolérantes, donc ayant une difficulté à prendre part au débat démocratique, à l'échange des opinions. Et puis, elle passe ainsi donc comme une forme de violence spirituelle. D'où vient cette situation assez étrange, au fond, qui fait que l'expression d'un croyant dans la sphère publique en tant que telle passe pour intolérante par une sorte de renversement des opinions. De telle sorte que le croyant serait libre de cultiver ses dévotions privées pendant le week-end avec ses coreligionnaires, pourvu que donc ils n'interviennent pas sur la sphère, dans la sphère publique. D'ailleurs, réciproquement, non seulement l'opinion trouve suspecte l'intervention des croyants dans la sphère publique, mais réciproquement, les croyants eux-mêmes semblent timides à intervenir dans la sphère publique et se demandent même s'ils sont justifiés à le faire, sont tentés de n'y prendre part qu'incognito, en occultant ce qui inspire leur action, pour précisément être autorisé ainsi à rentrer dans le débat en ayant déposé à l'entrée leurs convictions pour s'exposer plus librement au débat. Même plus, non seulement les croyants peuvent se montrer timides à intervenir en tant que tels dans le débat public, mais ils peuvent même être enclins à en mépriser les moyens. Le haut-parleur, les moyens d'information que nous offre la vie contemporaine, les moyens de l'argent. Il faut de l'argent pour s'exprimer en public. Les moyens de l'argent sont vite suspectés, méprisés. Ces croyants peuvent hésiter à recourir aux instruments du pouvoir de toutes sortes et donc se réserver un champ qui les condamnerait à l'impuissance dans la sphère politique et dans la sphère sociale parce que si je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas de pouvoir, si je n'ai pas de moyens de communication, évidemment, je n'existe pas dans la sphère publique. Et si bien qu'on assiste, de fait, on assiste depuis longtemps, hein. Je parle au présent, mais l'épisode a commencé il y a à peu près deux siècles et demi. On assiste donc à ce que l'on appelle la privatisation de la dimension religieuse, et non seulement sa privatisation, mais même son éviction de la société, la désinsertion, souvent consentie d'ailleurs, par les croyants eux-mêmes, des responsabilités ordinaires qui sont celles de la culture, de l'économie, de la politique, etc., en tant que telles, bien qu'ils puissent y prendre part, mais comme je le disais, incognito. La question « de quoi se mêle-t-on ?» renvoie donc bien à celle d'une exposition en tant que telle du croyant et non pas de son action incognito, parce que celui qui agit incognito accepte d'emblée la pertinence de la question « de quoi se mêle-t-on ?» et se fait complice, si vous pensez que c'est un mal, ou se fait en tout cas consentant à cette injonction. Ceci ne va pas sans difficulté pour un croyant, parce que d'une part, si la dimension religieuse n'apparaît pas dans la sphère publique, si on considère que une culture, les rapports entre les hommes, une économie, des institutions, des lois peuvent se concevoir sans horizon spirituel, au fond, en pensant que Dieu n'existe pas, en pensant que l'homme n'a pas une destinée particulière. Ce mutisme, même s'il n'est pas un rejet de la religion en tant que telle, ce mutisme aboutit de fait à un athéisme. C'est la raison pour laquelle ce que l'on présente souvent comme les exigences de la laïcité, c'est-à-dire ne pas se prévaloir d'une confession pour entrer dans les responsabilités publiques, en fait correspond à un athéisme de fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'une culture peut être valable même quand elle n'est pas inspirée par la foi en Dieu, même quand elle n'est pas portée par une interrogation métaphysique. On considère qu'une politique peut être valable même si on tient les lois seulement pour des conventions livrées au marchandage dans la place publique des moyens d'information. Donc, il est difficile, me semble-t-il, pour un croyant d'avaliser la simple position de neutralité religieuse de la société dans son ensemble, parce que accepter cette neutralité religieuse, croire qu'il existerait un terrain commun que nous partagerions à condition de faire taire les convictions religieuses, eh bien, c'est souscrire à un athéisme de fait, puisque c'est dire qu'au fond, que l'on croit en Dieu ou pas, les conséquences sont les mêmes. Que l'on croit en Dieu ou pas, la culture a la même validité, l'économie a la même validité, les lois ont la même validité. Donc à ce moment-là, les croyances sont des superstitions surérogatoires qu'on peut accorder à la rigueur à la périphérie de la conscience, mais qui glissent sur le réel comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et donc ce que l'on appelle l'athéisme, ce qu'on appelle la laïcité, il faut le dire, est le plus souvent un athéisme de fait. C'est-à-dire qu'on croit qu'une société peut se constituer comme société dans le silence sur Dieu, même si ce silence se veut tolérant et respectueux. D'autre part, qu'est-ce qu'une religion ? Que serait une religion qui consentirait à abandonner la société à elle-même et consentirait à observer ses dérives, ses égarements, mais en construisant une arche, en quelque sorte, et en disant, bon, ben, nous, ça ne nous concerne pas, nous montons sur notre arche, tandis que le déluge déferle sur cette histoire. Et donc, que serait une religion qui abandonnerait, en quelque sorte, la société à ses inerties, à ses mécanismes, et les laisserait fonctionner comme des rouages auxquels on ne peut rien ou auxquels on peut se désintéresser. Une telle religion, évidemment, serait une secte. Et alors, précisément, c'est la posture impossible, en tout cas pour un chrétien, qui à aucun moment n'est fondé à se considérer comme une secte, c'est-à-dire comme une catégorie des gens mis à part, qui assurerait leur salut, tandis que le monde est livré à sa décadence. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pape agace. Car le pape agace... Alors, je ne sais pas si... De temps en temps, j'écoute attentivement, pas toujours, les discours des souverains pontifes, parce que je guette avec effroi le moment où ils cesseront de parler à tous les hommes. Pour l'instant, je ne crois pas que ça a été le cas. C'est-à-dire, lorsque le pape s'exprime, il parle à tous les hommes. Il ne gênerait personne s'il parlait aux cathos. D'ailleurs, chacun est prêt à lui dire « Mais ça, cette recommandation, cette admonestation, cette analyse, fais-la pour ta secte. » Et si le pape agace, c'est parce qu'il ne s'adresse pas aux cathos, mais il s'adresse à tous les hommes. Précisément parce que l'Église n'est pas une secte. Et qu'elle ne prétend pas mettre à part le petit reste des rescapés qui pourrait regarder avec dédain le monde courir à sa perte. Donc voilà, il y a une difficulté réciproque. D'une part, une société qui ignorerait la pertinence de la foi, une société qui ignore la pertinence de la foi est une société athée de fait, et d'autre part, un croyant qui ne se préoccuperait pas d'intervenir dans cette société, qui ne se préoccuperait pas de penser les plaies des corps, d'éduquer les enfants, de réparer les injustices, d'améliorer les lois, de mieux faire circuler les biens, eh bien, serait une secte. Et c'est en tout cas la position que je montrerai comme impossible à un chrétien. Il faut dire que cette question de la marginalisation de la religion par rapport à la société est une question qui a pris une acuité nouvelle depuis, je disais, deux siècles et demi, trois siècles. Bon, on ne se disputera pas sur les dates de naissance. Mais cette acuité nouvelle vient précisément de l'ouverture de ce que l'on appelle l'espace public. Je rappelle ce que l'on appelle l'espace public, ce que Habermas, par exemple, définit comme l'espace public, c'est-à-dire la possibilité d'un dialogue perpétuellement ouvert, indépendamment de toute référence à une autorité. L'exemple même de l'espace public, la caractéristique de l'espace public, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'intellectuel. L'intellectuel apparaît tout d'un coup, il y a deux siècles et demi à peu près, enfin bon, peu importe, disons au XVIIIe, lorsque quelqu'un peut intervenir dans l'espace de discussion sans être ni souverain, ni juge, ni prêtre, et en n'ayant pas d'autre autorité à revendiquer que celle de la rationalité de son propos. C'est les bienfaits de l'ouverture de cet espace public. Personne ne peut se présenter dans l'espace public en se disant investi d'une autorité particulière qui ferait que son point de vue serait prévalent. Donc cet espace public d'interlocution est un espace fondamentalement égalitaire où, au fond, toutes les opinions sont recevables à partir du moment où elles acceptent les formes de la discussion. Or, précisément, celui qui s'adosse à une autorité, celui qui est inspiré par une révélation, ne remplit pas, ou a une difficulté réelle, y compris à titre personnel, à remplir les exigences de l'espace public, c'est-à-dire de s'avancer sur le marché des idées à égalité avec les autres. C'est la raison pour laquelle les catholiques ont une grande difficulté à accepter les libertés modernes. Ils ne les acceptent qu'en barguignant. Parce que ces libertés modernes, donc qui sont celles de l'opinion, exigent précisément qu'on s'avance sans costume, sans uniforme, sans grade, et avec pour tout titre celui de la rationalité ou de la correction, plus ou moins approximative, du discours. D'où le fait, ce qui est nouveau, en fait, pourquoi est-ce que ceci, alors on ne va pas faire de l'histoire des idées, je brosse rapidement j'évoque rapidement quelques raisons à cette évolution. On le sait, le moment décisif, c'est celui qui est souligné par Hobbes, c'est-à-dire la conviction qu'il n'y a pas de juste en soi, mais il y a simplement des solutions négociées. Et que ces solutions négociées disqualifient toute prétention à exercer une autorité qui serait extérieure et supérieure à celle de l'État, qui règle les conditions du marché des idées, du marché des lois, du marché des religions. Et donc c'est à cette époque-là, par l'émergence du libéralisme, que la difficulté pour une religion de prendre part à la vie publique devient aiguë. D'où deux tentations des catholiques Je parle spécifiquement des catholiques, car ils sont ceux qui sont le plus fortement exposés à ces tentations, étant par leur conception de l'Église les plus incapables d'accepter le simple espace de discussion neutralisé. Ce qui ne ferait pas trop de difficultés pour quelqu'un qui placerait simplement sa foi dans le siège de sa conscience individuelle et portative. Mais pour quelqu'un qui vit sa foi dans une communion à l'Église et que cette communion à l'Église se superpose et se coïncide avec une institution, évidemment, le catholique de ce fait se trouve en difficulté pour accepter ces libertés modernes, d'où deux grandes tentations des catholiques. La première, on l'a vu régulièrement apparaître dans l'histoire, et ça n'est pas fini, c'est de se mettre dans les jupes d'un régime autoritaire. Napoléon Ier, Napoléon III, Franco, même la séduction de Pétain pour un certain nombre de gens, se mettre dans les jupes d'un régime autoritaire qui serait notre nouveau Charlemagne, notre nouveau protecteur, et permettrait de faire à nouveau l'alliance, en quelque sorte, du glaive et de la croix. Parce que quand il y avait alliance du glaive et de la croix, évidemment, cette alliance du glaive et de la croix n'allait pas sans rivalité. Rivalité fort violente, et donc c'était pas une alliance du glaive et de la croix, c'était une guerre du glaive et de la croix. Et donc jusqu'à la modernité, on voit la guerre du glaive et de la croix jusqu'à ce que le glaive gagne avec Hobbes. Mais cette rivalité reposait sur le fait qu'au fond, ils avaient la même vision de la société. L'empereur et le pape avaient au fond la même vision de la société. Une vision centralisée, hiérarchique, avec l'idée qu'il y a un juste en soi. Se confronter non pas au glaive, mais au bulletin de vote, c'est une plus rude tâche. Parce que quand je me confronte avec le glaive, il y a au fond une même vision de la société. Quand je me confronte avec le bulletin de vote, tout se passe comme s'il y avait une toute autre vision de la société, d'où l'extrême difficulté des catholiques à accepter les libertés modernes qui ont été rejetées avec indignation, par exemple, dans l'encyclique Mirarios, en 1832, Grégoire XVI qualifiant la liberté de conscience de délire. Quand même, il faut se rappeler l'histoire de l'Église. Parce que la grande question, c'était celle de la liberté de l'erreur. Deuxième tentation des catholiques. Première tentation, se mettre dans les jupes d'un pouvoir. Ça a été le grand moment de Napoléon III. Deuxième tentation, bouder ses libertés modernes et se draper dans une espèce de romantisme critique. Posture prophétique et boudeuse qui condamne le catholique à l'ironie ou à la vitupération. Alors on voit ça dans toutes les grandes figures catholiques, même dans Chesterton, et bien sûr dans Léon Blois, et peut-être dans Peggy, et sûrement dans Bernanos, et toutes les grandes figures que les catholiques aiment et admirent, au fond, ont été tentées et ont même, assez souvent, fini par se draper dans une posture de vitupération, qui donne lieu à quelques ironies féroces et charmantes, mais au fond, coupe les bras de la présence dans la société. Donc les catholiques ont-ils des bras? Et s'ils se réfugient dans une position prophétique, eh bien, ils perdent les bras qui leur permettraient d'agir dans la société. Ce tableau catastrophique, et il est catastrophique pour le catholique que je suis, ce tableau catastrophique est très bien dessiné par Alain Besançon dans quelques pages que je vais vous lire. C'est un peu long, mais vous êtes des auditeurs exercés, assidus et gourmands. Dans un livre que je vous recommande, de toute façon on ne peut que recommander à peu près tous les livres d'Alain Besançon, donc un livre qui s'appelle « Trois tentations dans l'Église » qui, en la page 25, dit mieux que moi tout ce que je viens de dire. Napoléon, le coup d'État papal, Napoléon a sauvé l'Église au temporel, comme le romantisme l'a sauvé au spirituel. la grande période romantique au 19e, Liszt, prêtre. C'est quand même beau. Le grand cheveux blanc, ses maîtresses, c'est merveilleux. Et donc, il y a eu une alliance objective du catholicisme et du romantisme en bien des épisodes par la même nostalgie antimoderne. Napoléon a sauvé l'Église au temporel, avec le Concordat, comme le romantisme l'a sauvé au spirituel. Mais dans les deux cas, cette alliance fut payée d'une grave déperdition, non pas dans l'ordre de la grâce, mais dans l'ordre de la nature. Avec le romantisme, l'Église perdait le sens de la raison comme régulatrice. Avec le Concordat, elle perdait le sens de la société dans sa valeur autonome. C'est ainsi qu'on pourrait interpréter la tendance du catholicisme français à se constituer en contre-société, close, malheureuse et retranchée de toutes parts. Elle s'exprime par un double mouvement de cléricalisation de la société catholique et de laïcisation de la société française. Et quelques pages plus loin, on peut lire, ayant perdu donc et la raison et la société, perdu la raison à cause de l'alliance avec le romantisme, perdu la société à cause de l'alliance avec Napoléon, la pensée catholique a perdu ses repères, aussi porte-t-elle ses regards vers un au-delà qui postule l'éclatement de la raison, la fin de cette nature et la dissolution de cette société. Au-delà qu'elle confond avec l'eschatologie et qui est en fait une eschatologie pervertie. C'est ainsi que naît, alors Besançon n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est ainsi que naît avec Léon Blois, Péguy, Bernanos, l'équivalent d'un dostoïevskisme français. Nous y retrouvons, mais porté à l'incandescence, les thèmes familiers, le rêve combiné d'une antique chrétienté et d'un nouveau socialisme, le nationalisme de type slavophile antipathique à l'Occident, le monde anglo-saxon matérialiste et mesquin rejeté dans le mépris, la détestation du bourgeois et en général de toutes les aménités de la civilisation, de tout ce qui est mondain, les jolies femmes, la couture, la coiffure, le maquillage, la gastronomie, la décoration. L'extrémisme et l'enthousiasme qui exigent de préférer le spiritualiste même stupide à l'agnostique même pertinent. Bref, la haine du monde tel qu'il va, portée parfois jusqu'à la haine du genre humain. D'où une exaltation du marginal. Je continue cette lecture, elle est quand même extraordinaire, parce que pour ceux d'entre vous qui sont catholiques, on s'y reconnaît hélas un peu trop souvent. Ceci s'accompagne d'une exaltation symétrique du marginal. Délinquants, prostitués, terroristes, drogués, blousons noirs ne sont pas honorés parce qu'ils sont revêtus à l'intérieur d'une société imparfaite de l'éminente dignité des pauvres, mais plutôt parce qu'ils sont les représentants de la contre-société. C'est impressionnant le nombre de... je me rappelle un adolescent disant... Parce que vous savez, dans certains milieux catholiques, pour ceux qui le connaissent, on cultive beaucoup le témoignage des anciens drogués, des anciens prisonniers, des anciens voleurs, des anciens, etc. Et je me rappelle un adolescent disant « Moi, vraiment, je ne suis pas drogué, pas prostitué, pas, j'ai aucune chance d'être catho. » Et effectivement, il y a une célébration des marges qui est bien loin d'être... Le fait de laver les pieds du pauvre, c'est de le solliciter comme une espèce de modèle de contre-société, d'alternance à ce que serait cette société haïssable du bourgeois, de l'argent, etc. J'avoue que là-dessus, il y a des pages absolument odieuses de Léon Blois, qui quand même, dans certaines pages, est un sombre imbécile. Léon Blois, dans son journal, saluant... le naufrage du Titanic avec joie. Parce qu'il y a quelques milliardaires qui y sont passés. Alors tout d'un coup, il s'aventure et dit « Oui, mais il y avait peut-être des gens dans les soutes, parce que ceci, je les regrette. » Bon. Comme quoi, la littérature est pleine d'un certain nombre d'absurdités qu'il est bon d'oublier. Ceci est une confidence, Léon Blois m'agace au plus haut point. Mais vous l'aviez compris. Alors je vais tenter d'avancer dans cette question en ayant soulevé toutes ces difficultés. Il faudrait peut-être que j'en reste là parce que les difficultés sont si grandes que je me demande même comment je vais avancer. Je développerai trois points. Le premier point, c'est une politique de l'incarnation. Le deuxième point, c'est la signification politique de l'Eucharistie. Et le troisième point, c'est l'engagement dans la société. En effet, je disais donc qu'il est impossible à un catholique, à un chrétien en général, d'adopter la posture sectaire qui consisterait donc à abandonner, comme je le disais, le monde à ses dérives, puisque le cœur, évidemment, de la révélation chrétienne, c'est l'incarnation, c'est-à-dire c'est l'axe qui, autour duquel l'histoire tourne, le gond autour duquel l'histoire tourne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui affirme, qui croit et qui sait que Dieu, l'Éternel, s'est incarné dans le temps, à une date précise, à un lieu précis. Il ne dit pas que c'est symbolique. Il ne dit pas qu'il s'est incarné en Palestine et qu'à la rigueur, il aurait pu s'incarner en Ardèche. Il ne dit pas qu'il s'est incarné sous le règne d'Auguste, mais qu'après tout, il aurait pu s'incarner sous le règne de Hollande, qui n'est pas pire. Et si je disais, après tout, l'incarnation pourrait avoir lieu n'importe où, n'importe quand, je serais hors de l'histoire. Or, un chrétien est quelqu'un qui affirme « Dieu est rentré dans l'histoire ». Ponce Pilate est dans le credo. Il y a un seul nom propre dans le credo, c'est Ponce Pilate. Et d'où vient cette entrée dans l'histoire? Quelles sont les conséquences, évidemment, de cette entrée dans l'histoire? Eh bien, les conséquences, elles sont claires, c'est que la participation de l'humanité au salut passe aussi par les œuvres dans cette histoire, par la transformation de la nature, par les pouvoirs de la technique, par la création des hôpitaux, des écoles, par l'aventure scientifique. Tout cela, comment se fait-il qu'au fond, ce soit principalement dans l'ère chrétienne, l'ère AIRE, que se soit développée l'école, l'hôpital, la science, etc. C'est parce que, précisément, ce qui concerne les souffrances de la chair ne peut pas être indifférent. Et qu'on ne peut pas considérer que, après tout, c'est simplement un monde qui passe, que l'on peut abandonner et qui est destiné donc à n'être qu'une chrysalide qui sera délaissée derrière nous. Cela tient au fait que, alors ceci est bien expliqué dans un livre qui a eu un grand succès, mais qui dit des choses qu'un chrétien sait depuis longtemps, qui s'appelle « Le désenchantement du monde » de Marcel Gauchet, dans lequel Marcel Gauchet explique que ce qui caractérise la révélation chrétienne, c'est justement la désacralisation du monde, j'en ai dit quelques mots dans une des interventions précédentes, désacralisation du pouvoir, qui fait que ce monde désacralisé est précisément un monde dans lequel je peux me retrousser les manches. Alors que s'il était investi de significations sacrées primordiales et écrasantes, eh bien, je n'aurais pas d'autre attitude que celle de la soumission à ce qui advient, la soumission au destin. Et donc, il y a des pages célèbres, de très belles pages de Michelet décrivant les paysages que nous trouvons beaux d'Italie, de la Toscane, et Michelet se désolant du fait que ces montagnes de Toscane, que pourtant nous trouvons belles, ont été rendues chauves de leur forêt à cause de la dévastation chrétienne. Puisqu'effectivement, les chrétiens ont arraché les buissons et détourné les rivières. Et donc, ils ont désacralisé cette nature, et ils l'ont désacralisée précisément parce qu'ils l'ont dit de création. Et que, étant création, par là, elle n'est pas, étant créature, par là même, elle n'est pas sacrée. Et du pouvoir non plus, il convient de dire qu'il n'est pas sacré. Et donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, est une expression qui est susceptible de beaucoup d'interprétations, mais qui signifie que le pouvoir n'est pas divin. Alors que il est rentré dans la logique de tous les pouvoirs de se sacraliser, de se diviniser. L'affirmation selon laquelle Jésus est seul médiateur éjecte toutes les autres prétentions à être médiateur, éjecte toutes les autres prétentions à être réceptacle du divin ici-bas. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a jamais accepté l'expression « roi par la grâce de Dieu ». que les rois n'ont pas manqué de s'approprier, bien entendu, mais précisément parce que il n'y aurait aucune raison pour que la grâce soit réservée à un individu. Une grâce est proposée à tous. Et donc, prétendre que quelqu'un serait investi d'une grâce particulière par une fonction politique qui serait la sienne, serait lui attribuer une sacralité abusive. Ainsi, cette désacralisation du monde contribue à l'autonomisation des valeurs mondaines. C'est fondamental, parce que cette autonomisation des valeurs mondaines justifie qu'elles soient évaluées dans leur propre registre. C'est-à-dire que avant de me demander si un peintre est un peintre chrétien, je me demanderais s'il est un bon peintre. Avant de me demander si une politique est une politique chrétienne, je me demanderais si c'est une bonne politique. Ça, c'est le sens de l'incarnation. Et c'est effectivement le sens juste de la laïcité, de dire chaque activité a sa propre sphère d'évaluation. Un médecin a sa propre sphère d'évaluation. Un professeur a sa propre sphère d'évaluation. Un footballeur a sa propre sphère d'évaluation. Un footballeur, on ne lui demande pas s'il est chrétien ou pas, on lui demande s'il est un bon footballeur. Il serait embarrassant qu'il se prétende bon footballeur au prétexte qu'il est chrétien. Et qu'il demande à être sélectionné comme chrétien et non pas comme footballeur. Donc, voilà, dire Jésus est seul médiateur ouvre l'autonomie des sphères mondaines. Donc, ouvre la science, la technique, la politique, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que l'aventure extraordinaire de notre histoire ? C'est que cette autonomie s'est voulue, en quelque sorte, détachement. C'est voulu indépendance. Et que la sphère artistique, la sphère politique, la sphère scientifique, qui toutes, finalement, font écho aux religieux, ont voulu capter pour elles, devenues autonomes, ont voulu capter pour elles l'aura de sacré dont elles bénéficiaient encore du fait de leur source. Et c'est comme ça que les politiques sont devenues folles, c'est comme ça que les sciences ont pu devenir folles, c'est comme ça que les artistes sont devenus fous, ils le sont encore assez pour un bon nombre d'entre eux. Lorsque l'autonomie l'autonomie veut se revendiquer comme indépendance. Mais revenons aux propos que je voulais tenir sur l'incarnation. Donc je disais, la foi en l'incarnation justifie donc l'entrée dans l'histoire. Et cette entrée dans l'histoire, elle est au fond bien exprimée par la vie monastique. Ora et labora, prie et travaille. La vie monastique est retranchement et aussi déforestation, culture, construction de canal. Et le monastère de Citeaux est encore ferme modèle de la région de Dijon. Et les moines fabriquent du fromage. Et ils cultivent cette terre sans la bouder, se réfugiant sur une colonne. Évidemment, la manifestation la plus importante de cette autonomisation de la dimension humaine, de la prise au sérieux, en quelque sorte, voyez, de l'histoire, c'est la grande révolution chrétienne qui est l'émergence de la personne. Et cette émergence de la personne, elle a bouleversé tout le champ de l'histoire, puisque, par exemple, c'est les chrétiens qui ont inventé le mariage avec le consentement. C'est la première fois dans l'histoire qu'on s'est préoccupé de savoir si quelqu'un consentait. C'est même la dernière, puisque récemment, on a assisté à une répudiation par Twitter. La question, c'est vraiment fonder le lien sur la liberté de la personne. Et si bien que S'il y avait une réalité qui fût sacrée en elle-même, ça serait bien entendu pas les oiseaux, les arbres et les rivières, mais la personne. Car Dieu ne s'est pas fait oiseau, ne s'est pas fait crocodile, il s'est fait personne. Et par là, donc, a donné à la personne humaine son éminente dignité. Alors, c'est ce qui justifie que les chrétiens en tant que tels, normalement, ne sont solidaires, ne devraient être solidaires d'aucune forme folklorique particulière, puisque toute personne, en tant que telle, est enfant de Dieu. Qu'elle soit revêtue d'une djellaba ou d'un complet veston, qu'elle soit en maillot de bain ou je ne sais pas quoi, bon, j'ai aucune imagination vestimentaire, j'arrête là ma tentative. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien peut vivre en chrétien dans toute société, quelle qu'elle soit. Deux points apparaissent donc fondamentaux. D'une part, l'autonomie des valeurs humaines, qui ont leur propre logique. D'autre part, l'immersion dans toute société, quelle qu'elle soit. Et je n'ai pas à attendre qu'une société soit une société chrétienne pour y vivre en chrétien. Il est même illusoire de penser qu'il y aurait un jour une société chrétienne. Il est même illusoire de penser de vouloir. Il est même illusoire de vouloir une société chrétienne. Car dans la mesure où précisément il est invité à prendre au sérieux la dimension de l'histoire, le chrétien est invité à vivre en s'immergeant dans la société où il est. Vous connaissez tous le grand texte de référence sur la question. Nous allons le relire. Avec plaisir, c'est la célèbre épître à Diognète. Donc l'épître à Diognète qui doit sans doute des années 120, quelque chose comme ça, 120-125, dans lequel est décrite la vie du chrétien dans le monde. Donc c'est un texte très archaïque de l'histoire des chrétiens. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays ni par le langage. Il n'y a pas de langue chrétienne. Marrant, hein ? Il n'y a pas de vêtements chrétiens. Il n'y a pas de nourriture chrétienne. Les chrétiens peuvent manger du rat, la semelle du crocodile, du bœuf, etc. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par la langue, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. À Salt Lake City. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine. Ils se répartissent dans des cités grecques, des cités barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Donc ils sont mêlés aux cités grecques, aux cités païennes, aux cités etc. Et cependant, ils sont simultanément citoyens d'une république spirituelle, mais qui n'exige pas d'eux qu'ils se revêtent de vêtements particuliers ou aient des régimes alimentaires. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ah, il y a quand même une petite différence. Ils partagent tous la même table, mais n'ont pas la même couche. Ah, petite différence. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue, mais par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils en sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que les biens, ils sont que le bien, ils sont châtiés par des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ceci correspond bien à ce que l'on trouve chez le prophète Jérémie au chapitre 8, lorsque le prophète Jérémie dit aux Juifs exilés à Babylone, Jérémie s'adressant aux Juifs exilés à Babylone leur dit « Faites prospérer le pays dans lequel vous vous trouvez ». Même en exil, même déporté, même méprisé, cette terre est une terre à cultiver, à labourer, ces animaux sont des animaux à nourrir, à élever, à manger, et donc la terre dans laquelle je suis, je n'ai pas le droit de la maudire, même si je m'y trouve un peu en porte-à-faux. De toute façon, le chrétien s'y trouvera toujours en porte-à-faux, mais il n'a pas le droit de la maudire. Deuxième point, ceci est lié au sens de l'Eucharistie. Enfin, je lis ce soir cet aspect de la vie chrétienne au sens de l'Eucharistie, en soulignant la dimension politique de l'Eucharistie. Et comment, au fond, celle-ci présente le modèle de tout engagement. Pour trois raisons. La première, que d'ailleurs dont on a l'écho dans les épîtres de Paul, c'est que l'Eucharistie est la première assemblée totalement égalitaire. On voit dans les épîtres de Paul qu'il y en a des qui se demandent s'il faut vraiment s'asseoir à côté des esclaves. Il y en a qui se demandent s'il faut vraiment célébrer hommes et femmes. Donc saint Paul ne dit pas « libérez les esclaves, libérez les esclaves », il dit « esclaves, obéissez à vos maîtres ». Et cependant, le christianisme est présenté comme ayant fait sauter le verrou de l'esclavage. Pourquoi ? Simplement parce que les esclaves se sont assis à côté des maîtres et ont partagé le même repas. Et quand vous lisez l'épître de saint Jacques ou les épîtres de Paul, on voit les apôtres admonester les premiers fidèles, les tout premiers fidèles, ceux dont on s'imagine qu'ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils refusent de partager leur table avec plus pauvres qu'eux. Il y a un très bel épisode dans un livre que je n'ai pas retrouvé, parce que je range mal mes livres ou parce que j'en prête trop. Tous les livres qui sont sur mes rayons sont aussi des livres que j'ai empruntés. Donc là où il y a des places vides, c'est les livres que j'ai prêtés. Et donc il y a un très beau livre qui s'appelle « Le monde s'effondre » de Inouï Achebe, H-A-C-H-E-B-E. Dans « Le monde s'effondre », donc Inouï Achebe raconte l'arrivée de missionnaires dans un village africain. Alors ces missionnaires ont un peu de peine à rassembler des ouailles, à convertir cette peuplade africaine récalcitrante, bien entendu. Enfin bon, quelques convertis cheminent et ils font une célébration eucharistique. Et donc les missionnaires ont insisté sur le fait que tous étaient appelés à se rassembler à la table eucharistique. Or, dans le village africain, comme dans toutes les civilisations, il y a des parias. Il y a des exclus, des impurs, les jumeaux, les roux, les boiteux, les borgnes. Et ces parias qui vivent en dehors du village, dans la forêt, qui n'ont pas le droit de rentrer dans le village, entendent dire qu'il y a un type qui dit « tout le monde peut venir ». Alors le dimanche, qu'est-ce qu'ils font à la sonnerie de la cloche ? Ils viennent. Depuis quelques mois, les missionnaires avaient sué sang et eau pour faire quelques conversions et faire venir des baptêmes, etc. Et au moment où tous les impurs rentrent dans la chapelle, les autres foutent le camp. Question, vous êtes prêtre, vous êtes missionnaire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous perdez vos premiers clients et vous dites aux impurs et aux parias de rester, surtout qu'ils ont fort mauvaise allure, ou alors vous allez à la pêche à ceux qui sont partis et vous évincez ces indésirables. Vous voulez savoir la suite ? Eh bien, lisez « Le monde s'effondre » d'Inouï Achebe. Mais comme vous ne le trouverez probablement pas, je vous donne la suite. Le missionnaire tient bon et laisse les parias. Il s'ensuit certains mouvements dans le... Mais le livre s'appelle « Le monde s'effondre » parce que si je fais s'asseoir à côté les purs et les impurs, le monde s'effondre. Et effectivement, l'Eucharistie fait voler en éclats les structures sociales les plus traditionnelles, les plus dures. Mais on en est toujours là, parce que nos paroisses sont encore sociologiquement classées, bon, on ne va pas s'attarder à ça. Mais enfin, quand même, on se réjouit souvent, j'ai souvent l'occasion de me réjouir, du fait que les assemblées paroissiales sont quand même extrêmement mélangées, sauf en certains lieux, puis s'ils ne sont pas mélangés, c'est pour des raisons d'inertie sociale plus que d'exclusion. Et donc on a régulièrement quelques ivrognes qui passent, c'est excellent, d'ailleurs je trouve que c'est... Je me réjouis toujours quand il y a un ivrogne qui passe, je me sens moins seul. Le deuxième aspect de l'Eucharistie, c'est non seulement donc d'être le seul lieu d'égalité fondamentale, au fond, le seul modèle d'égalité fondamentale, mais deuxièmement, d'être la création, enfin pas la création, la révélation, la mise au jour du seul espace universel, du seul espace qui ne se confonde pas avec une frontière, avec un État. En effet, quelle a été la grande opération ? J'évoquais tout à l'heure, trop rapidement, mais on a tellement de choses à se dire. J'évoquais tout à l'heure l'émergence de l'État et la neutralisation de la religion par cette émergence de l'État. Quelle a été la grande opération des États ? C'est de se découper du territoire. Ça a donné les États-nations et ces monstres sanglants qui se sont précipités les uns contre les autres comme des tigres. Je ne comprends pas qu'on célèbre la guerre de 14. Franchement, c'est une chose dont il n'y a pas à être fier, c'est bien ça. Et qui correspond à l'émergence des États-nations, c'est-à-dire des gens qui ont assis leur pouvoir, non plus tellement par rapport à des personnes, mais par rapport à des territoires, considérés comme des propriétés. Or, l'Eucharistie ouvre un espace non territorial. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle peut se célébrer en tout lieu, y compris en camp de concentration. On a quelques récits très beaux d'Eucharistie célébrée en camp de concentration et qui font disparaître les barrières, les barbelés du camp de concentration et qui permettent, dans le camp de concentration, aux Polonais, aux Hongrois, aux Français, aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens, de communier. Avec Cavanaugh, car tout ce que je dis là est inspiré de William Cavanaugh, avec Cavanaugh, donc on peut dire que l'Eucharistie est la véritable mondialisation, la seule véritable mondialisation. Je vous lis rapidement une page qui conclut ce très beau livre qui est « Eucharistie et mondialisation ». En conclusion de « Eucharistie et mondialisation », Cavanaugh dit « Le vrai village planétaire, ce n'est pas le village abstrait grossi à l'échelle du monde. Le vrai village planétaire, c'est cette assemblée ici et maintenant, où, en tout lieu et en tout temps, nous sommes faits un en celui qui a dit « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, là je serai présent au milieu d'eux. » À la cartographie abstraite de la mondialisation, l'Église oppose une cartographie eucharistique qui, en réunissant les hommes autour du corps du Christ, sans exception d'âge, de race, de sexe, de langue ou de classe sociale, renverse les barrières spatiales et temporelles élevées par la modernité. En Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, écrit saint Paul aux Galates. Troisième raison, que je ne développerai pas car il faut que j'avance à grand galop, c'est que cette ouverture d'un autre espace, d'une véritable mondialisation, est au fond au principe de toute insoumission. C'est ce qui fait que le croyant est un obéissant insoumis, mauvais citoyen. Il obéit aux coutumes locales, il obéit aux lois locales, mais au fond, il se pense aussi comme citoyen d'une autre cité. Et vous voyez, quand l'épître à Diognète nous dit « il se comporte comme l'âme dans le corps », ça veut dire « oui, bien sûr, il est ici, il se soumet à toutes les règles de cette société, mais en même temps, il ne s'y donne pas entièrement, et donc c'est le principe de toute insoumission, et dans ses plus belles heures, l'Église a su, pas toujours, manifester cette insoumission au régime qui prétend se déifier. » Dernier point, donc, quelques mots sur l'engagement chrétien que je terminerai avec mon cher Montalembert. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai travaillé donc, sur ce grand penseur catholique, ce grand orateur politique qu'a été Charles de Montalembert, qui appartient au courant de ce que l'on appelle le catholicisme libéral et qui a travaillé toute sa vie comme orateur politique, comme activiste, parce que c'était vraiment un activiste, à la réconciliation de la foi et des libertés modernes, en soutenant sans cesse que si je suis assuré de la vérité, je n'ai rien à redouter du débat. Et que vouloir recourir à un argument d'autorité, vouloir recourir à un bras armé pour faire triompher la vérité, c'est précisément douter de la vérité. Il y a un très beau texte de Pascal sur la question. Et donc la vérité ne peut pas s'imposer par l'intermédiaire des chaînes politiques. Si bien qu'il n'est non seulement pas absurde, mais il est nécessaire que, un croyant, s'il est assuré de la vérité de ce à quoi il croit, s'expose au débat public, combatte dans la sphère publique et s'engage en politique, puisque c'était l'obsession de Montalembert que les catholiques fassent de la politique. Ils sont nuls en politique. Montalembert pestait, les catholiques sont excellents dans les dévotions privées et nuls en politique. Et il a tout fait, donc parti, journal, école, pour que cette action politique puisse voir le jour. Pour qu'il y ait une action politique, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un intérêt à défendre. Et c'est pourquoi Besançon a raison lorsqu'il rejette avec colère une certaine manie de la pauvreté dans l'Église. Parce que qui n'a pas de bien à défendre n'a aucun titre à participer à la vie publique. Ce qui me donne des titres à participer à la vie publique, c'est que j'ai des propriétés à défendre, j'ai des intérêts à défendre, j'ai une usine, j'ai une école, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un garde-manger. Et il y a une position de pauvreté qui marginalise de fait le croyant en le rendant pas participant de l'élaboration des richesses. Or, je ne peux vraiment participer à la sphère publique que dans la mesure où aussi je prends part à cette élaboration des richesses dans la perception des intérêts qui sont les miens. Il y a une perception de la gratuité, du caractère désintéressé qui est mortifère. Être désintéressé, c'est n'avoir plus d'entrailles. Et heureusement que, à travers ses œuvres, donc, un chrétien, dans son combat, ne défend pas sa foi. La foi ne se défend pas dans un combat. Mais ce qu'il défend dans un combat, c'est ses œuvres. Ses hôpitaux, ses écoles, ses lieux de culte, ses dispensaires, ses bibliothèques, etc. Et donc, je vous lis Montalembert, ça vaut mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Donc, je vous recommande la lecture des deux discours fondamentaux de Montalembert, que j'ai publié donc sous le titre « L'Église libre dans l'État libre ». Montalembert dit « Quel est le catholique qui ait le droit de méconnaître les conditions de l'existence de l'Église ici-bas ?» Je répète la phrase. « Quel est le catholique qui ait le droit de méconnaître les conditions de l'existence de l'Église ici-bas ? Les cathédrales, les temples où l'on prêche le dogme, où l'on célèbre les sacrifices de la religion, ne sont pas la religion elle-même. Mais que penserait-on du fidèle qui verrait démolir Notre-Dame de Reims ou Notre-Dame de Paris en se croisant les bras, sous prétexte que la religion n'est pas atteinte, puisque c'est seulement les murs, ou que l'on a pu préserver les hosties consacrées des mains du sacrilège? Dans une lettre au père Ravignan, qui était un jésuite, et les jésuites ont fait de grands collèges, ils en ont refait un bon nombre au XIXe, Montalembert écrit au père de Ravignan que, certes, les jésuites font de bons chrétiens, mais bien peu de militants. Je me demande si c'est réellement, dit Montalembert, écoutez bien, je me demande si c'est réellement être un bon chrétien de nos jours que d'aller à l'Église sans s'informer des conditions auxquelles l'Église reste ouverte à des fidèles, sans s'inquiéter des dangers qui peuvent la faire fermer demain. Voilà, l'action politique, elle consiste pas à chercher à convertir par l'action politique, mais à défendre les intérêts légitimes de l'incarnation d'une confession de foi dans société. Et je terminerai par cette dernière citation de Montalembert. « Les catholiques, comme tous les autres citoyens, sont investis du droit et du pouvoir d'intervenir dans l'action politique de l'État. Doivent-ils donc seuls rester en dehors de ce mouvement et s'abstenir de traiter à la tribune ou dans la presse les questions qui intéressent le plus leur conscience, leur dignité et leur bonheur ? C'est là une extrémité à laquelle je n'ai pas pu me résigner. Malgré mon inexpérience et ma faiblesse, j'ai ramassé aux pieds de mes adversaires ces armes, celles de la publicité, de la presse, de la tribune, ces armes qu'il avait forgées contre nous, et je les ai retournées contre eux. Voilà quelques aspects sur cette question de l'engagement des chrétiens dans la société. J'ai dû être rapide sur un certain nombre de points, donc vous allez m'aider à éclairer ce qui a été obscur.